Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. C'est un nouvel épisode consacré à un invité aujourd'hui et je vous propose de partir à la rencontre d'Alexis Michela, un freelance qui a compté et compte encore d'ailleurs dans mon propre développement d'entrepreneuse. Vous allez me dire, mais alors, rien à voir avec l'écriture ? Eh bien, si, le 14 janvier 2021, Alexis sortait son livre. D'abord, il faut savoir qu'Alexis a un processus créatif intéressant, car lui aussi est hôte d'un podcast à destination des indépendants, qui s'appelle Tribu Indé, pour ceux qui connaissent, en plus de sa création de contenu sur les réseaux sociaux et ses missions clients en tant que copywriter, bien sûr. Donc il a écrit pour le web à la base, mais du coup il est passé de l'autre côté de la barrière en se challengeant et en sortant un livre en chair et en os. Enfin, en papier et en encre. Pas de panique si vous n'êtes pas freelance et que vous ne souhaitez pas le devenir, cet épisode peut quand même vous intéresser car c'est le premier invité qui va vous parler ici de livres de non-fiction. C'est un processus créatif différent, dans lequel néanmoins vous allez retrouver des similitudes avec nos processus créatifs habituels par ici, à savoir pour des romans, pour de la fiction. C'est un parcours très intéressant que je vous propose aujourd'hui, je vous retrouve à la fin et je vous laisse partager ma discussion avec Alexis Michela. Bonjour Alexis, merci à toi d'avoir vraiment accepté déjà et puis d'être, je sais qu'en ce moment t'en fais plein.
Ouais mais je savais que t'allais poser des bonnes questions notamment sur l'écriture et tout donc c'est cool que j'en parle un peu moins.
Ouais c'est hyper intéressant. Parce que en te recevant dans le podcast aujourd'hui, je me suis rendu compte que je crois que tu es le premier, à part avec Valentin, mais c'était vraiment tout au début, bien avant que je lance les hors-séries, à ne pas avoir écrit de livre fiction. Vraiment, tu as écrit sur de la non-fiction, à part si tu as un roman caché quelque part.
Encore.
Je ne crois pas. Donc ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est un processus créatif qui est complètement différent. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un peu par ici ? Parce que pour le coup, c'est sûr que dans mon audience, il y a à peu près les trois quarts qui ne te connaissent pas, je pense.
Aucun souci. Du coup, moi, je m'appelle Alexis Michela et je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, dont l'objectif, donc c'est un podcast plutôt business et dont l'objectif, en tout cas ma vision, c'était de, et ça l'est toujours, de permettre à n'importe quel indépendant de progresser dans son activité. Et pour ça, plutôt que de donner des conseils juste sur un podcast solo, comme tu peux le faire très bien, moi je me suis dit, je vais aller décortiquer un peu les stratégies et puis les clés de succès d'autres freelances et d'autres indépendants chaque semaine, donc tous les mercredis, un nouvel épisode sur le podcast. Et puis bien maintenant, je peux le dire, mais je suis maintenant l'auteur d'un livre qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, aux éditions Erol. Et pareil, c'est dans le prolongement de ce que je peux faire avec Tribu Indé en apportant cette petite brique à l'écosystème freelance. Et l'idée, c'est d'accompagner tous les indépendants. Le cœur de cible, on en reparlera sûrement, mais c'est globalement des indépendants qui ont entre 0 et 2 ans d'expérience en freelance. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner à construire leurs offres, à apprendre à se vendre. Exactement. Et puis, moi-même, je suis freelance. C'est comme ça que je gagne aujourd'hui. Tu vois, 80% de mes revenus sur les deux dernières années, c'est lié au freelancing, à ce que je peux faire en termes de mission client. Donc, c'est ce que je fais. Je travaille souvent pour des 90% pour des entreprises en B2B, des entreprises qui vendent à 12 entreprises sur des sujets de copywriting et de création de contenu.
C'est plutôt des boîtes tech ou pas du tout ?
Ouais, c'est plutôt, c'est en grande majorité des boîtes tech, sur des sujets assez pointus, donc, parce qu'en fait c'est lié à ce que je faisais quand j'ai démarré moi ma vie professionnelle. Je l'ai commencé dans des startups très tech, tu vois, qui faisaient de la data, et en fait j'ai gardé un peu cet héritage-là parce que j'avais aussi décelé, tu vois, des opportunités. Il y a beaucoup de copywriters, il y a beaucoup de gens qui créent du contenu, il y en a assez peu qui sont vraiment spécialisés sur des sujets par exemple d'acquisition en B2B pour des boîtes très tech. Ouais. Et tu vois, l'avantage d'être en freelance, c'est que finalement on n'a pas besoin non plus d'avoir 50 clients à l'année, et donc en fait vu l'offre, enfin en tout cas la demande qu'il y a en France sur ces boîtes là c'est pour ça que j'ai pris ce positionnement là qui est un positionnement purement marketing. Ça veut pas dire que je peux pas faire autre chose, mais c'est vers ça que je me suis tourné en tout cas.
Tu sais ce que j'ai lu il y a pas très longtemps, que 98% à peu près des gens sur LinkedIn en tout cas font partie de la majorité silencieuse, c'est-à-dire ceux qui ne créent pas du tout de contenu et qui font que consommer. Toi, tu crées du contenu du coup depuis un bon moment, que ce soit il y a eu Medium, il y a eu le blog, il y a le podcast et tout. À quel moment t'es passé de consommateur d'informations à créateur de contenu plutôt ?
C'est une très bonne question. Je te dirais que la première fois où j'ai commencé, moi je me souviens de mon premier article sur Internet, effectivement c'était sur une plateforme de blogging qui s'appelle Medium, une plateforme américaine qui avait été créée je crois par le fondateur de Twitter à l'époque. Et on était en 2016, et en 2016 j'étais encore étudiant en école de commerce. Et à ce moment-là j'étais même en stage à La Défense, Et donc, il y a, tu vois, il y a cinq ans, j'étais en costume cravate à La Défense. Il y a quelques photos qui traînent sûrement sur Internet de moi en costume cravate. Mais du coup, effectivement, les choses ont bien changé depuis 4-5 ans. Mais en fait, comment est-ce que c'est venu, le fait de commencer à écrire, notamment sur Internet? C'est venu d'une frustration. C'est-à-dire que moi, en 2016, mon plan de carrière, quand je rentre en école de commerce, mon objectif, c'était de gagner beaucoup d'argent. Parce que je m'étais dit, pour être heureux, il faut gagner beaucoup d'argent. Et donc, j'ai envie d'être heureux et donc j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Et pour ça, quand tu es en école de commerce, tu as différentes voies un peu royales, un peu classiques.
Et ouais, c'était pour quoi ?
Exactement. Et une des grosses voies, c'est de te dire, va en conseil ou en finance. C'est là où tu auras les meilleures perspectives de carrière, les meilleures évolutions, etc. Et donc, moi, en bon élève, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je démarre des stages. Alors, je vais en finance, mais je vais plutôt en audit conseil. Et je vais dans des gros cabinets de la Défense parce qu'en gros, entre mon master 1 et mon master 2, je fais une année de césure. Donc en fait, c'est quoi ? C'est 12 mois où je peux faire les stages que je veux pendant 12 mois pour un peu expérimenter et me faire une première expérience pro. Et c'est à ce moment-là que je me retrouve à la Défense. Je travaille pour des clients grands comptes, etc. Bref, un milieu que je ne connaissais pas. En vrai, le job n'a rien d'une torture. Ça se passe super bien. Mes collègues sont hyper cool, etc. Mais c'est juste que quand je regarde l'environnement autour de moi, c'est des gens qui ont, tu vois, globalement entre 30, 35, 40 ans, qui sont managers, seniors, consultants, ouais, expérimentés, etc. Et en fait, je me projette pas, quoi. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de ça dans, tu vois, j'ai 25 ans, dans 10 ans, en fait.
Tu veux être là, quoi.
Et ouais, et là, tu vois, ça a pas connecté. Et je me suis dit, merde, en fait, tout le plan de carrière que j'avais bâti, que j'avais construit pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire être dans un beau cabinet de conseil, même si c'était en stage, mais un cabinet prestigieux qui, globalement, m'ouvrait les voies pour avoir un CDI et puis évoluer ensuite. Bah, tout ça, en fait, tu vois, c'est un peu le château de cartes qui s'écroule. Et c'est à ce moment-là où je me dis, OK, comment je peux rebondir, comment est-ce que je peux évoluer, comment est-ce que je peux trouver une autre voie, parce que je m'étais jamais vraiment posé de questions. Et c'est à ce moment-là, tu vois, que je commence à tomber un petit peu dans l'écosystème entrepreneurial. À l'époque, il y a une boîte qui s'appelle The Family, qui était une sorte de famille d'entrepreneurs qui accompagnait des startups et qui publiait énormément de contenu sur YouTube. Et donc, je tombe là-dessus, de fil en aiguille, tu vois, je commence à lire des livres un peu plus business. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à lire des livres business. Et puis, je tombe sur des créateurs, des entrepreneurs américains. Bref, je tombe sur tout cet écosystème-là. Et puis, je me dis, ça a l'air chouette. Et si tout ce que j'apprenais, parce qu'en école, en fait, tu vois, personne t'apprend vraiment ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat, personne te parle vraiment de ça, etc. Et donc, je me suis dit, moi, je suis en train d'apprendre ça. Est-ce que je documenterai pas ça à l'écrit via des articles? Et donc, mes premiers articles, je me souviens, c'était des résumés de livres et c'était des résumés de conférences que je suivais, soit quand j'étais à Paris, soit des conférences en ligne que je suivais déjà à l'époque. Et c'était simplement juste de partager ça. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me dire, je passe d'un consommateur de contenu à un producteur, à ma petite échelle en tout cas.
Ouais, donc t'as osé quand même. Tu vois, je connais beaucoup de gens qui oseraient pas même faire de la curation ou des résumés ou quoi, ils se sentent pas légitimes en fait.
Mais si tu veux, encore aujourd'hui, tu vois, je pourrais me dire la même chose sur le livre. J'ai écrit un livre, j'ai 27 ans, dans une maison d'édition qui parle d'un sujet business, alors que j'ai globalement 4-5 ans d'expérience dans ce monde-là. Tu vois, quel que soit ton niveau d'avancement, tu trouveras toujours des excuses pour te dire je suis pas à la hauteur, je suis un imposteur sur ce sujet, etc. Moi, tu vois, plutôt que de me dire, d'essayer de me dire, ah non, comment est-ce que je peux affronter ça? En fait, j'assume aussi parfois d'être un imposteur et de me dire, en fait, je sais pas tout et c'est OK. Et c'est d'ailleurs la posture que j'ai prise. Quand j'ai commencé à écrire des articles sur Internet, j'étais hyper transparent sur le fait que j'étais au début de cette aventure-là, que moi, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais que du coup, j'allais partager ce que j'apprenais au fur et à mesure.
Ouais, c'est d'autant plus intéressant, articles, en fait.
Mais exactement. Tu vois, je pense que, enfin, moi à l'époque, je voulais pas me raconter d'histoire, et c'était pareil pour le podcast. Quand j'ai commencé le podcast, c'était clair et net que j'annonçais clairement, je suis en train de me lancer vraiment à temps plein en freelance, même si j'avais déjà fait 2-3 ans de freelancing, je te dirais, tu vois, à côté de mes études et puis à côté de mon premier job. Mais j'étais plus, tu vois, dans une démarche, moi, d'explorateur, de passeur d'informations, tu vois. J'allais chercher de l'information ailleurs et puis je le refaisais à ma sauce et puis je le repartageais à une audience qui était les freelances. Mais au démarrage, en fait, je l'ai fait d'abord pour moi et puis je me suis dit, ça peut intéresser quelques étudiants de ma promo. Et ça, c'était le premier truc, de me dire, prends une posture de débutant et t'es au début, et donc ne te comporte pas et n'écris pas comme un expert, comme un sachant qui connaît tout sur le sujet. Et puis le fait aussi d'avoir été accompagné par Valentin Descartes, en parlait en début d'épisode. En fait, à ce moment-là, on était tous les deux dans ces réflexions-là. Et le fait d'avoir eu quelqu'un qui se posait un peu le même genre de questions à ce moment-là, ça nous a aussi un petit peu challengé, tu vois, d'être tous les deux en se disant, allez, viens, on se fait un petit challenge où on va écrire un peu sur Internet. Et tu vois, vu qu'on était deux, on se disait, ok, même si les gens nous jugent, c'est pas grave, on se relisait nos contenus, etc. Tu vois, on était un peu les deux tic et tac.
Ouais, mais toi, tu t'exprimes sur différents réseaux sociaux, puis il y a le podcast et tout. Et quels sont pour toi les critères Ça, c'est un truc que j'ai vachement travaillé dessus et j'avais un peu envie d'avoir ton avis. Quels sont pour toi les critères qui font que tu vas choisir un support plutôt qu'un autre, un format plutôt qu'un autre? Pourquoi le podcast Tribu Indé d'ailleurs, enfin, tu vois, tu parlais de médium, la plupart commencent par un blog de base. Tu vois, pourquoi le podcast en fait?
En fait, le blog, si tu veux, l'écriture, je trouve que c'est le moyen le plus, si tu veux, où tu prends le moins de risques parce que tu vois, t'es pas exposé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ta tête comme sur YouTube, il n'y a pas ta voix, tu peux le retravailler autant de fois que tu veux de ton côté. Il y a moins ce côté presque instantané, même si, tu vois, là, on est en train d'enregistrer un podcast à distance, qui n'est pas live, etc. Et tu vois, il y a toujours moyen de le modifier, mais pas autant que si t'écrivais un article ou si on écrivait un article à quatre mains.
Ouais. Très indirect.
Donc effectivement, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, parce que je trouvais que c'était le moyen le plus simple et qui me demandait aussi le moins de technique. Tu vois, j'avais pas besoin de micro, j'avais juste besoin de mon ordinateur et normalement aujourd'hui tout le monde a au moins un ordinateur. Et après sur le podcast, si tu veux, c'est venu de trois choses. La première, c'était que moi ça faisait, du coup je lance le podcast en mars 2019. Moi, ça faisait déjà presque 2 ans que je commençais à mettre un pied dans l'écosystème, freelance, futur du travail, etc. Et ma première expérience en CDI, je l'ai fait dans une plateforme de freelance. Et qu'est-ce que je fais pour cette boîte-là? Je crée du contenu. Donc, tu vois, j'avais déjà une vision un peu large de l'écosystème et j'avais surtout identifié un peu des trous dans la raquette. Tu vois, j'avais identifié qu'il y avait quelques angles de contenu, il y avait des choses qui manquaient en termes de format, et c'est notamment ce qui s'est passé avec le podcast. Tu vois, il y avait déjà beaucoup de podcasts en 2019, il y avait beaucoup de podcasts business, mais il y avait surtout beaucoup de podcasts entrepreneuriales. Il n'y avait pas vraiment de podcast long format, sur un format, tu vois, interview, où on va creuser des sujets, pour les indépendants, par un indépendant. C'était beaucoup, tu vois, d'entrepreneurs. Exactement. Beaucoup, tu vois, d'entrepreneurs, de start-upers, etc. Mais pas de personnes qui ont des solo business, quoi. Des gens qui sont comme toi et moi, qui bossent de chez eux ou chez leurs clients, mais qui sont tout seuls dans leur business. Et donc là, tu vois, ça, c'était une opportunité où je me suis dit, bah, tu vois, c'est un peu toute cette communauté silencieuse d'indépendants, bah, peut-être qu'ils aimeraient aussi avoir un podcast qui leur ressemble. Ça, c'est, tu vois, le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'était que, à ce moment-là, donc tu vois, moi je me lance en freelance en 2017 à côté de mes études un peu par accident pour prolonger une expérience que j'ai avec une start-up. Et donc je continue, tu vois, d'être freelance à côté de mon premier job, mais il n'y a pas beaucoup de pression. Tu vois, je travaille le soir et le week-end, je travaille sur quelques petits projets que j'ai choisis, je me mets pas de pression parce que j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois avec mon emploi, donc je me mets pas de pression. À partir du moment où tu en fais ton activité principale, ta source de revenus principale, je trouve que t'es dans un autre niveau, t'es dans une autre ligue, et t'as plein de sujets que tu avais pas quand tu faisais du freelance en side project, que tu commences à avoir, c'est-à-dire le positionnement, définir ton offre, aller chercher des clients, négocier beaucoup plus, tu vois, avoir une meilleure approche en termes de négociation, etc. Et là, je sentais qu'il me manquait quand même quelques billes, il me manquait une sorte d'apprentissage en accéléré, et je me suis dit, mais en fait, le meilleur moyen d'améliorer, d'accélérer sur mon apprentissage en tant que freelance, pas forcément sur mes compétences, mais vraiment en termes de business, ben c'est d'aller voir des indépendants qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et en fait, le podcast, c'est une bonne excuse parce que les gens sont souvent très pris. Et donc, quand tu arrives avec l'excuse de « on va faire un podcast qui va durer 1 heure, on va parler toi et en plus, on va le diffuser et ça va t'aider toi en termes de visibilité ouais. », ben, si tu veux, les gens sont beaucoup plus à même de passer 1 heure avec toi. Et puis, le troisième sujet qui est un pur sujet de kiff, quoi. Avant de se dire quelles sont les opportunités, les objectifs, etc., il y avait aussi un énorme sujet de kiff. Moi, ça faisait des années que j'écoutais des podcasts et à chaque fois, je me disais, putain, mais ces créateurs et ces créatrices-là, elles ont l'air de prendre leur pied à faire un podcast, à discuter avec des gens, à partager tout ça. Et plusieurs fois, je m'étais fait la réflexion de moi aussi, j'aimerais bien rencontrer des gens. Et du coup, voilà, ça, c'est la troisième brique qui était, c'était le moment, j'avais plus de temps que quand j'étais salarié. J'avais envie de kiffer sur un nouveau projet, de me lancer un nouveau challenge. Et donc, c'est comme ça que le podcast est arrivé, et d'ailleurs ça devait être une capsule de 10 épisodes initialement. Je m'étais dit c'est un projet de 10 épisodes. Et tu vois, là, je sais pas, il doit y avoir 55, 56 épisodes.
Un petit peu dépassé, quoi.
On a un tout petit peu dépassé, effectivement. Effectivement.
Mais après, le podcast suffisait. Enfin, c'est pas qu'il suffisait plus, mais t'es passé au livre comme support. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que t'es là aujourd'hui, hein, quand même, pour nous présenter ton livre, qui sort officiellement le 14, je crois, donc c'est bientôt.
Exactement.
Donc on est le 12, donc ouais, c'est dans deux jours. Quel a été le point de départ de l'aventure éditoriale de ce livre ? Genre, est-ce que t'es allé toi-même chercher Erol pour mettre tous tes précieux conseils sur papier, ou est-ce que c'est plutôt eux qui sont venus te chercher ?
Écoute, c'est eux qui sont venus me chercher. Ils ont commencé à venir me chercher. Je pense que le podcast avait quasiment 6-7 mois déjà d'activité à raison d'un podcast.
Ah ouais, ça fait un moment quand même alors.
Ouais. Ils sont venus, tu vois, on devait être en septembre 2019. Et eux, en fait, pour la petite histoire, ça faisait un petit moment qu'ils cherchaient quelqu'un pour écrire un livre sur le freelancing. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de contenu sur Internet pour les freelances, et Tribuandé en fait partie, mais il y a assez peu de littérature purement business. C'est-à-dire que tu as beaucoup de littérature sur l'administratif, par exemple, tu vois, comment, quel statut choisir, le guide du micro-entrepreneur, etc.
Mais la gestion, quoi.
Exactement. Tu as assez peu de livres vraiment entreprises qui t'apprend vraiment concrètement.
Sur la vision, sur tout ça.
Exactement. Et donc, ça faisait déjà un petit moment qu'Erol cherchait quelqu'un pour écrire ce livre-là. Et la première fois, donc, on s'est rencontrés, et figure-toi que j'ai refusé d'écrire ce livre-là parce que c'était pas le moment. Tu vois, il y avait le podcast qui me prenait déjà beaucoup de temps. Il y avait mes missions freelance, et je me voyais pas, si tu veux, c'était pas dans mes objectifs à court terme d'écrire un livre, en tout cas pas tout de suite, et encore
tu
moins.
Tu savais que c'était un gros morceau, je suppose.
J'avais pas anticipé aussi gros, mais je m'étais douté de la difficulté du projet.
Au moins du temps que ça te prendrait, quoi.
Exactement. Et du coup, tu vois, à ce moment-là, sur nos premiers échanges, je leur dis que c'est pas le moment, qu'on en reparle un petit peu plus tard, et puis ils reviennent vers moi en fin d'année. Donc tu vois, là, on doit être en décembre 2019. Ils reviennent en me disant, tu sais, Alexis, réfléchis-y bien, on a vraiment envie de porter ce projet avec toi, etc. Et là, je me dis, attends, une maison d'édition comme Erol qui vient te voir, je suis pas sûr que t'aies 10 fois cette opportunité-là. Est-ce que c'est pas le bon timing aussi ? Et en fait, eux ont aussi très bien fait leur job de commercial. Effectivement, ils m'ont montré qu'il y avait aussi une opportunité, comme il y avait pour le podcast au moment où j'ai lancé ce podcast-là, il y avait aussi une opportunité en termes de littérature, d'en faire un livre, en tout cas avec une ambition d'en faire un livre référence, parce qu'il y avait très très peu de livres sur le sujet, purement business et très actionnable. Et donc, on reprend les discussions en décembre 2019 et globalement en janvier 2020. Donc tu vois, il y a un an, on signe le contrat.
Ouais, purée. Donc du coup, est-ce que tu crois que ça va devenir la référence du freelancing ?
Excellente question. Écoute, c'est plus à moi d'en juger.
Des ventes Amazon.
c'est plus à moi d'en juger. Moi je te dirais que je considère avoir fait une partie de mon travail qui est d'en faire le meilleur livre possible en termes de qualité, et j'ai eu la chance de ne pas être tout seul non plus pour m'accompagner dans cette aventure-là. Il y a eu un petit groupe de bêta lecteurs, je pense que tu auras quelques questions là-dessus. Maintenant, ça va dépendre en fait des premiers lecteurs. Effectivement, le livre du coup était en précommande pendant une dizaine de jours à partir du 4 janvier. Et pour l'instant, l'accueil est quand même
positif,
là.
Quoi.
Est très positif. Ouais. Donc je suis extrêmement touché. Tu vois, je m'attendais pas à ce que on fasse des scores comme ça sur un livre business qui en plus s'adresse à des freelances, qui est quand même un sujet.
C'est niche. Ouais.
Bah c'est quand même très niché, quoi. Et donc je te dirais le fait d'en faire un livre référence. On se donne rendez-vous dans un an. Je pense que un an c'est la bonne durée de vie pour un livre comme
c'est
ça.
Clair.
De dire est-ce que c'est un livre qui est souvent recommandé, est-ce que déjà les personnes qui l'ont acheté le trouvent pertinent, ont pu progresser grâce à lui. Et puis mais ouais, en tout cas c'est l'ambition, ça a été l'ambition affichée dès le démarrage, en fait, quand j'ai signé ce contrat avec Erol et que je me suis mis en tête de passer, tu vois, j'ai quasiment passé plus de, là je pense au moment où on se parle, j'ai dû passer peut-être 420-430 heures sur le bouquin. Donc ouais. Tu vois, quand t'as passé autant de temps, t'as envie d'en faire quelque chose qui marque un petit peu, en tout cas l'écosystème.
Ça, je comprends. Mais souvent, les écrivains et ceux qui publient d'ailleurs utilisent l'expression, tu sais, laisser une trace. Oui. Est-ce que c'est aussi une envie de ta part à la base ? Est-ce que c'est au moins une intention en créant ce livre de dire bah, je vais laisser une trace ? Est-ce que c'est pour toi moins éphémère peut-être que le podcast ou que les réseaux sociaux, tout ça ?
Franchement, c'est difficilement, et je pense que tous les auditeurs auditrices qui ont au moins déjà publié un livre, en papier, c'est une sensation qui est assez particulière que moi, du coup, j'avais jamais vécue. Mais tu vois, la première fois que j'ai reçu mon livre pour de vrai, que j'ai pu feuilleter les pages, etc., c'est un sentiment qui est vraiment assez, assez dingue parce que bah, toi comme moi, tu vois, on est dans le digital, on est dans le numérique, on publie beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc.
Ouais.
Et exactement, et tout est assez éphémère. Et là, je trouve ça intéressant de reprendre le contre-pied de ça et de se dire bah, comment est-ce qu'on peut ressortir d'Internet. Et là, aujourd'hui, le fait d'avoir effectivement un objet physique, je ne sais pas si je l'ai vraiment fait, tu vois, pour laisser une trace. Moi, c'est pas que j'ai du mal à être sur le devant de la scène, mais c'est pas un de mes objectifs, tu vois. Moi, l'objectif.
Ouais, déjà, dans Tribu Indé, ça se voyait que c'était pas ton but, quoi.
Ouais, moi c'est pas là où tu vois ma zone de confort, ma zone de kiff, elle est pas dans le fait de par exemple tu vois, je me vois pas demain remplir des stades pour parler de freelancing. Je pense que je suis pas la bonne personne, je serai sûrement pas le meilleur et c'est juste que ça m'excite juste pas quoi. Et moi je considère que dans n'importe quel projet, tu dois avoir une partie aussi plaisir si t'as envie de durer sur le long terme, tu vois. Si j'avais fait que le podcast ou que j'avais écrit juste le livre pour avoir des opportunités, etc. En fait, c'est tellement difficile de tenir sur la durée qu'il y a un moment donné où tu lâches si tu n'as pas des envies plus profondes que ça. Et que ce soit sur le podcast ou le livre, ouais, j'ai pas forcément envie d'être sur le devant de la scène. Bien sûr que j'ai envie de laisser une trace au moins dans l'écosystème, mais surtout de partager et d'aider un maximum d'indépendants déjà avec ce livre et puis le podcast. Moi, si tu veux, les chiffres, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul sur les chiffres, les audiences, les stats. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est d'avoir des retours qualitatifs, de personnes qui me disent, bah voilà, ça fait un an que j'écoute le podcast, j'ai enfin pris la décision de me lancer et j'ai déjà signé 3 clients. Ça, en fait, c'est le meilleur retour qu'on peut me faire et ça vaut les milliers d'écoutes que le podcast fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je comprends totalement. Et bon, ici, tu sais qu'on s'intéresse plutôt au processus créatif qu'il y a derrière les livres. Du coup, ça m'intéresse de savoir quel a été le tien pendant l'écriture de ce livre. Est-ce que tu as une routine, par exemple, à laquelle tu n'as pas dérogé, ou presque, pour arriver au bout, vu que arriver au bout, c'est quand même le plus compliqué quand on écrit un livre. Après, c'est vrai que, comme tu dis, moi, je fais beaucoup de contenu, mais en termes de non-fiction, j'en ai jamais fait un livre. Donc, j'avoue que voilà, je te laisse la parole là-dessus, parce que je ne sais pas du tout si on peut, comparer le processus créatif d'un livre, justement, business et d'un livre de fiction, quoi.
Effectivement, je pense que tu as des points de différenciation, rien que dans le fait que moi, tu vois, j'ai pas de travail de personnage à créer comme tu peux le faire, par exemple, de profondeur, des personnages, de leur parcours, etc. Donc effectivement, la partie imagination, elle est beaucoup moins présente que sur un livre. En revanche, je pense que sur le processus créatif d'écriture, je pense qu'il va y avoir des similitudes dans ce que je vais pouvoir te raconter. Je serais curieux de savoir si tu en retrouves. Et je pense qu'aussi dans la structure, en fait, il y a plein de manières de faire un livre business. Tu peux en faire un livre, une sorte de méthodo, une sorte de guide un peu pratique. Tu peux en faire un livre juste avec des principes en mode fiche. Moi, j'ai essayé d'en faire un livre le plus romancé possible. Alors, attention, c'est pas un livre de storytelling, mais c'est un livre qui, tu vois, a une cohérence entre chacun des chapitres. Et j'ai essayé de. Et c'est d'ailleurs pour ça que le livre s'appelle vraiment Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. L'idée, c'est de naviguer dans l'aventure, dans sa propre aventure freelance à travers les chapitres, parce que je considérais que chaque chapitre avait une cohérence avec l'autre et servait, en fait, le chapitre suivant. Donc, j'ai aussi pensé, tu vois, en ayant une trame narrative, bien sûr, c'est pas un livre purement de storytelling, mais par exemple, tu vois, je me suis beaucoup inspiré du voyage du héros sur les questionnements, sur les 12. Alors, il n'y a pas les 12 étapes qu'on trouve dans le livre, mais il y a les principales, tu vois, où au début, si tu veux, t'es dans un cadre initial, un cadre lambda, et puis tu vas commencer à te poser des questions, tu vas affronter des premières peurs, tu vas refuser certaines opportunités, et puis ensuite tu vas rencontrer des nouvelles personnes qui vont t'accompagner dans ce processus-là. Tu vas avancer, tu vas prendre en expérience, et puis tu vas redouter, et tu vas te relever. Donc tu vois, toutes ces idées-là, en fait, elles sont insufflées à travers tous les chapitres du livre pour en faire, en fait, un livre aussi qui soit, même si on parle de business, qu'on en fasse quelque chose aussi de fun et de sympa, tu vois. C'est pas un truc où on se prend non plus tout le temps trop au sérieux.
Ouais, puis je trouve que c'est ce qui est intéressant, en fait, dans ce processus-là, c'est que je trouve que, et c'est, je vais te dire, c'est pour ça que moi, je ne lis pas de livres business, et je culpabilise beaucoup de ne pas en lire, parce que je vois bien que tous mes collègues freelance en lisent et tout. Ça va peut-être changer avec le tien, d'ailleurs. Tu vas peut-être me réconcilier avec ça. En fait, j'ai toujours du mal, je vais te dire, à m'identifier dans les livres business. J'ai toujours l'impression que ça ne me parle pas, ou alors que c'est très loin de ma propre réalité, tu vois. Donc, c'est pour ça que voilà, je ne suis pas très copine avec les livres business, mais que clairement, de toute façon, j'avais prévu de lire le tien, ne serait-ce que par amitié pour toi, et puis parce que je sais que tout le boulot qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant qui est un peu justement une cohérence et qu'on navigue dans son propre parcours, en fait, qu'on puisse s'y retrouver à n'importe quel moment du livre et à n'importe quel moment de son propre parcours, même si on en est au début ou comme moi, tu vois, si on s'est lancé mais qu'on a encore toujours, bah tu le sais, hein, des questions, des doutes, des remises en question perpétuelles, voilà, la vie de freelance.
J'ai fait énormément de recherches en amont du livre, c'est-à-dire que moi, j'avais quasiment 4 ans, plus de 4 ans d'expérience en freelance. J'ai travaillé dans une plateforme pour une plateforme de freelance, donc je comprenais aussi les coulisses. Et avec le podcast et puis différentes rencontres, tu vois, j'ai pu faire, je sais pas, des centaines et des centaines de calls, de rendez-vous, de discussions avec des freelances. Ce qui fait que, en plus de juste avoir ma vision du freelancing que je suis en train de raconter dans un livre, c'est une vision qui est beaucoup plus globale. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment des choses qui sont concrètes. Et moi, mon objectif, quand j'ai fait relire ce livre-là à une vingtaine de freelances, une des questions, c'était: est-ce que tu as eu, pendant la lecture d'un chapitre, ce petit moment où tu te dis: ah oui, il a raison, effectivement, je suis en train de vivre ça, tu vois. Et moi, je voulais absolument que dans le livre, au fur et à mesure, effectivement, que ça soit pas un livre détaché de quelqu'un qui est en train de t'enseigner quelque chose que tu... où tu dis: mais attends, est-ce qu'on parle vraiment de la même aventure freelance? Mais plutôt d'avoir quelque chose qui est hyper concret et surtout qui parle à la grande majorité des freelances pour aborder, tu vois, les vrais sujets, les challenges, les questions que tout le monde se pose. Et en fait, ça, il y a eu un travail de recherche en amont avant même de partir sur l'écriture. Tu vois, globalement, à partir du moment où j'ai signé en janvier 2020, l'écriture du livre a vraiment commencé à partir de mai. Donc en fait, sur les 4-5 premiers mois, ça a été de réfléchir à une thèse globale du livre, c'est-à-dire quelle est la grande idée que tu as envie de faire passer de la page 1 à la page 250, et comment est-ce que tu fais passer d'une situation initiale A à une situation finale B. Parce que c'est pas simplement, tu vas te dire: ok, j'ai une idée, je vais écrire un livre sur 250 pages, surtout un livre business où il y a peu d'imagination, et donc il faut, ouais, avoir des idées cohérentes qui argumentent une grande idée que tu peux avoir. Et donc ça prend beaucoup de temps. Et puis toute la partie ensuite, une fois que tu vois, t'as une grande idée, t'as une thèse globale que t'as envie de défendre sur un livre, bah, comment est-ce que tu vas argumenter ça? Quelles sont les grandes idées principales, les sous-idées, les exemples que tu vas pouvoir mettre pour appuyer ces idées-là qui vont sous-tendre la thèse globale? Et donc tout ça, en fait, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Tu vois, j'ai quasiment passé, je te dirais, un gros mois sur la partie chapitre, colonne vertébrale du livre, trouver déjà presque les exemples. Et donc en fait, tu vois, le livre était déjà quasiment écrit, en tout cas dans sa structure, il y avait vraiment, tu vois, la colonne vertébrale, presque les muscles déjà du livre, avant même l'écriture pure et dure qui est, bah, il faut aligner les mots, les phrases, les paragraphes et puis les pages.
Bah, de toute façon, je vais dire, je suis une, tous ceux qui écoutent le podcast le savent, mais je suis une fervente supportrice de la phase préparation dans les livres, même fiction. Pour le coup, j'ai essayé, tu vois, de moi qui fonctionne beaucoup comme ça, justement en mode colonne vertébrale et tout, j'ai déjà essayé, bah, pour le dernier livre, de fonctionner autrement, en me disant: ouais, bon, bah, tu vas passer outre un peu tes préjugés, en mode les gens qui partent sans plan. On va voir ce que ça donne, tu vois. Alors, je vais te dire, spoiler alert, ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que j'arrivais pas du tout à écrire, en fait, sans savoir où j'allais. Et je suppose que pour... voilà, après, ça sortait de ma tête, donc c'est différent. Mais pour un bouquin, en plus, qui... Enfin, t'as pas une obligation de résultat, tu vois, comme c'est plutôt une obligation de moyens, justement, de tout mettre, toi, en tant qu'Alexis, dans ce livre pour aider le plus de gens possible et tout. Mais derrière, comme tu dis, si t'as les retours de gens qui disent: mais purée, j'ai lu ça, c'est ouf comment ça m'a parlé, comment ça m'a aidé, ça m'a ouvert les yeux et tout, waouh, c'est incroyable, enfin, tu vois, c'est quand même ça que tu cherches, quoi.
Mais donc, c'est exactement ça. Et la difficulté, c'est que, en fait, je pense que c'est peut-être que certains auteurs le font sur des livres business, mais moi, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que tu peux te lancer dans l'écriture d'un livre sans avoir un plan qui est le plus construit possible. Parce que, tu vois, par exemple, là, on est en train d'enregistrer un podcast. Globalement, tu as une structure de la conversation, tu peux l'avoir en tête, ou même sur un article, tu peux avoir en tête un petit peu le plan, les idées que tu as envie de partager, ou même sur une newsletter. Mais sur un livre qui fait 250 pages, tu peux pas avoir tout ton plan dans la tête et te dire: ok, j'ai 2-3 grandes idées, je vais commencer à écrire, et puis en fait les idées vont bien se mettre les unes avec les autres. C'est le meilleur moyen pour en fait écrire et reprendre tout de zéro quasiment que tu vas te faire ta relecture, parce que rien n'est cohérent, ça ne s'enchaîne pas bien, etc.
Ouais, sans compter que tu risques quand même d'oublier des choses, peut-être des concepts, des choses comme ça auxquelles bah, finalement tu n'avais pas pensé, mais qui vont, en faisant ton plan, peut-être s'intégrer dans tel ou tel chapitre. Mais j'avais une question sur peut-être un peu plus précise, mais vu que tu as quand même repris du coup dans ce livre bah, tes propres conseils de ton expérience empirique sur le terrain et tout, et celle peut-être tous les conseils aussi que tu as pu avoir voilà du podcast, de toutes tes rencontres et tout, quel narrateur t'as choisi pour ce livre? Comment t'as
C'est une bonne question.
Ouais, comment t'as agencé ça? Parce que du coup, c'est enfin comment dire, il y a quand même des choses qui ne viennent pas de toi. Mais est-ce que tu as pu quand même te les réapproprier sans, tu vois, sans te dire, bah non, mais ça vient pas de moi. Est-ce que t'as cité des sources? Est-ce que, tu vois, vraiment des sources, genre des personnes? Ou pas du tout?
Ouais, c'est une très très bonne question parce que c'est des questions que je me suis beaucoup posées. Un petit peu les mêmes questions que je me suis posées quand j'ai démarré le podcast. Alors, bien sûr, si tu veux, en termes de narration, c'est je m'inclus le plus possible dans ce que je suis en train de raconter. Donc, tu vois, il y a beaucoup le nous, le on. Très peu le jeu, sauf par exemple, tu vois, chaque chapitre est un peu construit de la même manière, c'est-à-dire que tu as une histoire d'introduction, tu as une grande idée pour le chapitre qui sous-tend la thèse globale, et puis ensuite tu as des sous-idées qui vont appuyer la grande idée du chapitre. Et pour appuyer ces sous-idées-là, tu as ensuite des points clés, tu as des témoignages de freelance. Enfin, en tout cas, des retours d'expérience de freelance, des histoires aussi de côté entreprise qui peuvent servir mes propos pour des freelances. Et puis, tu termines par un point d'étape qui est une sorte de résumé, qui est l'essence même du chapitre, avec plein de schémas tout au long du livre. Mais tu vois, hors exemple, etc., dans la manière dont j'amène les conseils, les méthodes que moi-même j'ai pu utiliser, soit effectivement j'utilise le jeu quand c'est une méthode que j'ai testée et que je donne des exemples très concrets de ce que moi j'ai pu faire. Mais en revanche, tu vois, j'essaye au maximum, par exemple, de m'inclure dans ce que je peux raconter avec le « on », le « nous », de dire « ok, en fait, on est un groupe, un peu comme Tribu Indé, tu vois, on est un groupe de freelance qui avançons vers les mêmes objectifs. » Le livre, et c'est pour ça que le livre m'a pris autant de temps et m'a pris quasiment un an de travail, c'est que j'aurais pu faire juste un livre de résumé des 55 épisodes du podcast, j'avais largement la matière pour faire un livre. Mais là, je me suis dit, comment est-ce que je peux avoir quelque chose de différent, apporter une nouvelle brique, et tu vois, apporter aussi un peu plus de mon expérience et de mon regard sur ce que j'ai pu faire, et comment est-ce que je peux mixer aussi plein d'idées pour en faire, tu vois, par exemple, un concept ou une méthode qui fonctionne aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a plein d'idées que je me suis réappropriées parce que je les ai testées différemment. Et puis, quand il fallait le faire et quand j'avais besoin d'avoir des exemples très concrets, parce que tu sais, parfois, ça manque souvent, on te donne plein d'exemples, on te dit « faites comme ça, faites comme ci, pensez à ça, pensez à ça ». Mais on te donne pas vraiment on te dit pas si ça a vraiment fonctionné pour d'autres indépendants, par exemple. Et là, l'idée, c'était dès que tu as une idée forte, de dire « ok, ce que je suis en train de vous raconter, ça marche vraiment, ça a marché pour moi, mais ça a aussi marché pour d'autres personnes. Et voilà un petit peu l'histoire, et voilà comment est-ce que ça a été implémenté. » Et là, bien sûr, je cite soit d'autres freelances, soit des sources. Par exemple, il y a quelques sources, quelques recherches, notamment psychologiques, que j'utilise dans le livre. Bien sûr, il y a toutes les sources. Ça ne me serait jamais venu à l'idée de me réapproprier ça moi-même, quoi. Et je suis assez à l'aise avec ça. Sur le fait que, encore une fois, tu vois, ça dépend de la posture. Moi, j'ai une posture vraiment d'explorateur où je me dis... Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis content d'avoir écrit ce livre-là maintenant. J'aurais pu écrire ce livre-là dans 10-15 ans en disant voilà, ça fait 15 ans que je suis dans le game du freelancing et maintenant je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le début. Là, l'avantage, c'est que en fait, je suis encore, mine de rien, sur une carrière professionnelle, je suis encore au début, tu vois, à 4 ans d'expérience. Mais je trouve que ça a presque plus de valeur parce que du coup, toutes les idées sont très fraîches, je sais exactement par quoi passent des freelances qui sont en train de se lancer, quelles sont les questions qu'on se pose, parce que je me les pose aussi. Et du coup, tu vois, je suis capable d'apporter des réponses qui fonctionnent, en fait. Et je suis moins dans un rôle d'expert pur, mais plus dans un rôle d'explorateur où je partage ce que je suis en train d'apprendre aussi de mon aventure à moi.
Bah moi, je trouve qu'on a tout à gagner à justement lire. Enfin, après, c'est très personnel, mais tu vois, encore une fois, j'ai plus à gagner, je trouve, à lire un livre de quelqu'un qui... même dans tous les cas, d'écouter un podcast ou de consommer un contenu de quelqu'un, d'un de mes pairs qui va me dire bah en fait tu vois, moi j'en suis là, je suis peut-être un tout petit peu plus avancé que toi, mais vas-y, regarde tout le chemin qui me reste encore à parcourir, plutôt que quelqu'un qui va venir me dire ok, donc alors moi j'ai fait ça, vas-y ça marche, donc vas-y, comme je suis quand même un expert depuis 15 ans, je pense que quand même tu devrais être sûr ce que je fais, tu vois. Et je pense, c'est con parce que ça se trouve les deux auront peut-être raison, tu vois, mais c'est un peu comme la publicité à la télé et toi qui vas me dire « Ah, au fait, ce truc-là, c'est vachement bien, tu vois. » Bah, c'est pareil, je vais peut-être plus te faire confiance à toi plutôt que à la pub télé, quoi. C'est bête, mais je pense que je suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Et dans tous les cas, je trouve qu'on a toujours plus à apprendre des gens qui sont les plus humbles. Donc, voilà.
Et tu vois, c'est aussi pour ça que... Dès le démarrage du livre, en tout cas de l'écriture, de la réflexion sur le plan, je me suis dit comment est-ce que je peux, encore une fois, en faire un projet collectif comme l'a été le podcast avec les invités, etc. Et c'est, tu vois, à ce moment-là où je me suis dit est-ce que ça serait intéressant de créer une sorte de groupe de bêta-lecteurs qui pourront avoir un accès un peu plus privilégié aux vraiment coulisses, aux discussions que je peux avoir avec Errol, au choix des titres, des couvertures, où est-ce que j'en suis dans l'écriture, à la relecture, etc. Encore une fois, déjà parce que ça me faisait plaisir de partager un petit peu les coulisses d'un livre, parce que c'est pas quelque chose que tu peux, auquel tu as accès tout le temps.
On se sent moins seul en tant qu'écrivain aussi de partager.
Effectivement. Et ça, tu vois, je l'avais pas senti, mais le fait de partager toutes les semaines avec un groupe de personnes qui étaient réunies pour qu'on puisse avancer ensemble sur le livre, ça a été un moteur assez dingue. Et surtout, ça me permettait en fait de collectivement d'être sûr que ce que je suis en train de raconter dans le livre est cohérent, se tient, est efficace, que ça puisse leur parler effectivement, et que du coup on s'assure aussi derrière que la qualité elle soit au rendez-vous parce que le livre il aurait été suivi par 20-25 personnes, qu'il aurait été relu plusieurs fois par encore une fois plein d'indépendants avant de le mettre vraiment dans les mains des lecteurs finaux.
Ouais. Bah d'ailleurs, je sais que oui, le processus autour de ce livre, il a été aussi une aventure hyper collective, comme souvent dans ton travail. Hein, d'ailleurs, enfin, on voit que tu sais bien t'entourer, même dans Tribu Indé et tout. C'est peut-être d'ailleurs ton gros point différenciant, enfin, par rapport à tout ce qu'on peut suivre sur les réseaux et tout. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Enfin, quand j'ai commencé à écouter Tribu Indé, j'en parlais encore ce matin, tout au début, genre vraiment, j'étais même pas freelance, je travaillais à la banque et j'étais en mode, mais en fait, je peux pas faire ça toute ma vie, genre, il va falloir que je sorte de là. Et du coup, j'ai écouté Tribu Indé en cherchant freelance, tu vois, dans mon truc de podcast et je suis tombée dessus et j'ai bouffé tous les épisodes et je me souviens que j'ai compris qu'il fallait que je me crée ma propre équipe d'indépendants autour de moi et honnêtement, maintenant, je l'ai depuis le tout début. Où j'ai créé ma petite bulle de 10 personnes là et honnêtement c'est ma meilleure décision je crois depuis que je suis indépendante parce que ça m'a apporté non seulement beaucoup de réconfort de clients aussi un bon réseau enfin tu vois plein de choses comme ça et je pense que c'est un peu grâce à toi et à Tribu Indé quand même que j'ai compris que fallait pas être tout seul quoi.
Bah écoute tu vois encore une fois peut-être le meilleur retour que je peux avoir au-delà du nombre d'épisodes que t'as pu écouter, le fait que ça ait pu t'aider, que ça ait pu te donner des idées aussi, effectivement, tu vois, ce sujet de t'entourer, quels que soient les projets, à la fois des projets perso, des projets pro, je pense que c'est une des clés de la réussite et c'est d'ailleurs un des piliers dont je parle dans le livre, tu vois, de comment est-ce que tu te construis un réseau qui à la fois te ressemble, sur qui tu peux compter, comment tu peux t'entourer de partenaires stratégiques, c'est un vrai vrai sujet. Et même si tu vois le freelancing c'est un truc un peu solitaire où tu bosses souvent de ton côté, tu vois pas toujours tes clients, t'es pas intégré aux équipes, etc. Mais ça reste quand même une aventure aussi collective parce que t'avances beaucoup plus loin et tu as des meilleures idées que tu es avec d'autres personnes qui partagent un peu les mêmes réflexions que toi. Donc tu vois, je voulais aussi avoir ça aussi sur le livre. Pour partager ça avec d'autres personnes et pour un peu tu vois, extérioriser aussi le processus d'écriture pure du livre. C'est quelque chose qui a été très très difficile pour moi, même si tu vois, j'ai l'habitude d'écrire à la fois pour mes clients, pour Tribu Indé ou pour des sujets plus perso. Mine de rien, écrire un livre, c'est quand même un vrai processus où, si tu veux, je m'en rendais pas compte vraiment de la difficulté que c'était. Tu vois, quand tu lis un livre, que ce soit un roman ou un livre business, tu te rends pas compte vraiment, tu vois, toi tu l'achètes, tu le trouves cool, la couverture est bien, la quatrième te parle, t'as lu l'intro, tu te dis allez go, je l'achète, tu vas passer peut-être 4, 5, 6 heures sur le bouquin, mais tu vois pas tout le travail en fait en amont qu'il y a eu pour te délivrer la bonne information au bon moment, que ça soit fluide, qu'on puisse t'amener dans un monde imaginaire X ou Y. Et je suis content d'avoir pu aussi extérioriser, partager un peu parfois les frustrations que je pouvais avoir, les difficultés, avec un petit groupe qui était là pour entendre ce que j'avais à dire en fait.
Ouais. Ouais, je comprends. Et peut-être que parmi les auditeurs, d'ailleurs, il y en a certains qui aimeraient écrire un livre de non-fiction. Et heureusement, en fait, que je t'invite toi, parce que c'est vrai que j'en parle pas très souvent. J'ai parlé des différentes écritures qu'on peut avoir sur le web, etc. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu personne comme ça qui avait écrit un livre de non-fiction. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, quels sont les... ça va être très personnel pour toi, mais quels sont les points clés les plus importants pour écrire un livre qui tienne la route, justement, qui apporte vraiment une valeur au lecteur? Parce qu'entre nous, des livres un peu conseils business et tout, on en voit beaucoup passer. La plupart, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, tu vois, un peu comme je te disais, moi, j'ai du mal à m'y retrouver. Quels sont pour toi les points clés, en tout cas, que tu as vraiment mis en œuvre dans le livre pour justement que ça délivre justement cette valeur au bon moment, de manière fluide, etc.
Déjà, je pense que le premier sujet à vraiment prendre conscience, c'est de te dire. Un livre business, tu l'écris, je trouve que tu l'écris moins pour toi, versus, tu vois, si t'écris un roman et que t'as envie d'avoir, par exemple, je sais pas, t'écris un roman d'aventure ou de fantasy, tu te crées ton propre univers, il y a aussi une vraie notion où tu le fais aussi pour te faire plaisir ou pour partager une idée qui est hyper personnelle.
T'écris d'abord.
Qui est le fruit de ton imagination. Exactement. Ouais. Sur un livre business, bien sûr que tu écris pour toi, mais étant donné que c'est quand même un marché, il y a déjà beaucoup de contenu sur Internet, il y a vraiment un vrai sujet de positionnement de te dire, déjà, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Et est-ce que écrire un livre sur un sujet X ou Y a plus de valeur que par exemple de partager ça sur un article dans des articles de blog ou sur un podcast ou ailleurs? Ça, c'était un vrai travail, tu vois, même moi, de me dire comment est-ce que j'avais pas envie de faire une réplique du podcast, une réplique de ce que tu peux trouver sur Internet. Donc comment est-ce que je fais pour positionner le livre dans tout l'écosystème, pas seulement littéraire, mais dans tout l'écosystème freelance? Des contenus qui existent déjà, et comment est-ce que je peux avoir un angle qui est vraiment différent, et comment, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de raconter de différent dans le livre, et surtout quelle forme j'ai envie de lui donner. Est-ce que c'est un livre qui se lit, tu vois, avec des chapitres, avec des parties, avec des rebondissements, etc.? Est-ce que c'est plutôt un livre avec juste des principes clés, donc peut-être que t'as pas besoin de faire par exemple 250 pages et que ça peut être un petit manuel, un petit manuscrit? Mais je pense qu'il faut vraiment déjà se poser la question de, au-delà de juste écrire un livre pour se faire plaisir ou pour gagner en notoriété, etc., je pense que c'est plutôt des mauvaises raisons, mais plutôt de se dire, ok, j'ai envie d'écrire un livre, est-ce que déjà j'ai quelque chose d'intéressant à dire sur mon sujet, est-ce que j'ai un point de vue différent par rapport à ce qui existe, et surtout, comment est-ce que j'ai envie de raconter ça? Je pense que, tu vois, c'est des questions de base auxquelles il faut être sûr de pouvoir y répondre de manière hyper concrète avant de te dire, ok, je me lance là-dedans. Moi, l'avantage que j'ai eu, c'était aussi de, tu vois, le fait que le rapport que j'ai pu avoir avec la maison d'édition, il a été aussi inversé, à la différence d'aller pitcher un peu mon livre à droite à gauche. Là, j'ai eu l'avantage qu'ils étaient intéressés par le sujet, ils m'ont laissé carte blanche, et donc ça, si tu veux, c'est aussi un point de négociation qui est hyper intéressant, effectivement.
Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Tu parlais de prendre le recul, etc. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la création de ce livre, tout confondu?
Franchement, je pense que je te dirais que le plus difficile, c'est vraiment l'écriture pure, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que t'as la thèse du livre, que tu comprends comment tu vas le positionner, donc moi j'avais créé une sorte de document de positionnement où j'avais un petit peu expliqué les grandes idées, comment est-ce que je voulais développer cette idée-là sur tout le livre, pourquoi est-ce que je me sentais, en tout cas, la bonne personne pour écrire ce livre-là avec l'angle que j'avais choisi, un petit peu d'exploration, etc. Une fois que t'as fait ça et que t'as construit tous tes chapitres, les plus ou moins les exemples que tu voulais mettre dans chacun des chapitres, comment est-ce que tu voulais amener les idées, bah en fait là, tu peux plus reculer. Maintenant, il faut ouvrir tes Google Docs et puis écrire le livre. Et ça, si tu veux, ça a été le plus difficile parce que, en fait, c'est extrêmement long. C'est extrêmement long, il n'y a pas de raccourci. C'est-à-dire que personne d'autre que moi pouvait taper sur le clavier et enchaîner les pages, enchaîner les chapitres. Et là où, tu vois, sur un contenu que tu peux écrire sur Internet, sur une publication LinkedIn, sur même un livre blanc, sur des extraits que tu peux partager sur un blog, là, le truc, c'est que, en fait, pendant plusieurs semaines, tu vas écrire et tu peux pas partager ce que t'es en train de faire. Et donc, en fait, il y a un vrai concept de un peu de résistance, tu vois, t'as ton petit singe qui est intérieur qui te dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire, est-ce que c'est le bon moment de le faire, est-ce que t'es en train de raconter des choses pertinentes, est-ce que ça se tient, etc. Et en fait t'as le temps de cogiter à fond sur un projet livre, là où t'as un peu moins le temps sur un podcast, tu vois. Tu prépares un podcast, t'enregistres le podcast, tu publies globalement, il peut se passer une semaine, deux semaines. Là, sur un livre, il se passe plusieurs mois, et ce processus là d'écriture a été vraiment le plus compliqué, où en fait tous les jours, moi je me bloquais toutes mes matinées, en gros de 9h à 13h, j'étais focalisé sur l'écriture. Alors parfois c'était de l'écriture, parfois c'était de la recherche, mais globalement, tu vois, c'était 3-4 heures d'écriture par jour, grand maximum, parce qu'après, je pouvais pas écrire plus. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est très gourmand en énergie d'écrire pour moi. Et ça, ça a été très compliqué parce que t'as l'impression de pas avancer, que en fait il te reste encore 10 chapitres à écrire, que après il va falloir passer à la relecture. Mais vraiment, l'écriture même de la première version a été le plus difficile parce que tu pars de zéro, quoi. Même si t'as des idées, c'est quand même, tu vois, c'est un vrai exercice de dire j'ai des idées. Parce qu'on pourrait se dire, moi je suis freelance, j'en fais mon activité, je parle à des freelances tous les jours, j'ai un podcast qui s'adresse à des freelances, finalement les idées je les ai, mais entre avoir des idées, faire les choses soi-même au quotidien, et en faire en fait un livre qui soit à la fois agréable à lire, mais qui puisse apporter vraiment des conseils, qui soit digeste, qui soit pas trop compliqué, bref, tout ça c'est beaucoup plus compliqué, exactement. Ouais. Exactement. Et du coup, ouais, je te dirais que l'écriture vraiment, mais d'ailleurs, je pense que, enfin, ce serait intéressant de voir si c'est le cas de la plupart des auteurs, mais je trouve que la phase d'écriture, c'est la plus difficile.
Ouais, c'est marrant. Bah, en fait, je pense qu'on a tous un petit peu notre façon de fonctionner. Pour la fiction, je dirais que, en fait, ceux qui trouvent que l'écriture est longue, fastidieuse, etc., c'est souvent ceux qui font une petite phase de préparation. Genre, vraiment, ils se disent « Bon, je fais juste un plan vite fait, puis vas-y, j'y vais, quoi. » Et du coup, en général, ça va. Ça va jusqu'au milieu. Et au milieu, là, ça commence à être un peu la cata, où tu te dis « Ah, mais en fait, non, parce que ça va pas, ça, c'est pas cohérent. Tiens, il manque ça, je pourrais rajouter ça. » Alors là, c'est le début de la fin, quoi, parce que du coup, tu vas changer tout ton plan. Enfin, voilà, c'est la galère. Donc, perso, je suis plutôt de la team. Je prends 3 mois ou 2 mois pour me poser sur la préparation. Et après, je me pose direct sur l'écriture. Mais tu vois, il y a des bouquins, comme tu disais, tu parlais de fantasy et tout. Il y a des bouquins où j'ai mis 9 mois pour accoucher du truc. Et puis là, il y a le dernier où, bon, ok, c'est pas le même nombre de pages, tu vois, mais où j'ai mis 3 mois pour l'écrire en écrivant tous les jours et 1h30, quoi. Donc, je l'ai bouffé le truc. je l'ai vraiment, tu vois. Mais la réécriture aussi.
C'est pas si difficile.
Ouais.
La partie écriture, pour toi, elle est pas si difficile que ça.
Non, pour moi, l'écriture, c'est pas le plus difficile, mais je pense que, encore une fois, c'est extrêmement subjectif. Genre, il y a vraiment des gens, tu vois, par exemple, moi qui fais du mentorat maintenant pour les auteurs, c'est hyper intéressant pour moi, déjà parce que je suis hyper curieuse de voir à chaque fois, un peu comme toi dans Tribu Indé, tu vois, mais de voir comment les gens travaillent, comment ça se passe. Et c'est hyper marrant de voir que, alors souvent j'arrive à trouver quand même une méthodologie et une pédagogie qu'il y a derrière le mentorat en fait que j'ai construit moi, qui va aller à tout le monde, mais qui est hyper adaptable, genre heureusement, parce que sinon voilà, c'est impossible de... Déjà je pouvais pas moi anticiper tous les fonctionnements de tout le monde en fait, je suis encore surprise tous les jours par le fonctionnement de chacun, mais il y a des gens pour qui l'écriture ça va être par exemple un processus beaucoup plus long, parce que il faut trouver pile le bon mot dès le début, alors qu'il y aura une phase de réécriture, tu vois, et de
où on va reprendre
le texte et tout. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi ça. Moi, je suis pas du tout de cette team-là. Je suis plutôt, je sais ce que je veux dire. Je dois accoucher de l'histoire. Après, on verra pour. Alors, ça ne veut pas dire que les mots sont tous mal choisis, hein, pas du tout. Mais je pense que je passe moins de temps en premier jet, en tout cas. Tu vois, pour vraiment, le plus important, c'est l'histoire, c'est le message derrière, c'est tout ça. Et puis après, à la réécriture, bah oui, bien sûr, il y a des passages qui vont devoir être repris, ou tu vois, je les connais. En les écrivant, je me dis, ouais, bon, ça, niveau littérature, c'est pas fou. Voilà, j'y reviendrai plus tard. Donc, je pense que c'est hyper subjectif, mais pour un livre business, je pense que c'est complètement différent. Tout est revu. Je trouve que les exigences sont revues à la hausse, parce que déjà, à partir du moment où tu te dis j'écris pour un but, tu vois, genre vraiment pour j'écris pour passer de la valeur vraiment, mais enfin c'est hyper important, tu te rends compte, c'est à dire que c'est des gens qui vont lire ce bouquin, bon, sans te mettre la pression, de toute façon maintenant c'est c'est dans les bacs, mais tu vois, te dire genre ouais, il y a des gens quand même qui vont lire ce livre, et en fonction de là où ils en sont, tu vois, il y aura peut-être dans l'eau des gens qui sont un peu perdus sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je veux vraiment être freelance, je galère un peu, donc ça va peut-être leur redonner espoir, tu vois, leur redonner de la méthode. Enfin, franchement, il y a un gros enjeu derrière pour beaucoup de gens, et qui vont se dire vas-y, Bah, par exemple, je dis n'importe quoi, mais je suis freelance, je crois pas forcément au live business et tout. Par contre, j'adore Alexis, je suis tribu indé, j'aime bien sa personnalité, il me fait toujours passer des réflexions intéressantes. Donc je vais pas remettre mon futur entre ses mains, tu vois, c'est un peu trop, mais me dire bah franchement, je prends sa parole pour quelque chose qui me touche, tu vois.
Ça a été aussi un vrai sujet pour moi de me dire, finalement, avec un livre, il y a quand même une part de responsabilité. Alors bien sûr, le succès des freelances ne dépend pas exclusivement du livre, heureusement d'ailleurs, parce que sinon il coûterait beaucoup plus cher que ça. Mais effectivement, t'as quand même une forme de responsabilité où tu vois, je ne peux pas raconter n'importe quoi, parce que je sais que ça va en aider vraiment, et certains misent aussi sur le livre, pour progresser, pour se poser des bonnes questions. Et donc, effectivement, tu as cet enjeu de responsabilité où, moi, une de mes grandes peurs, et c'est pour ça que je suis ravi d'avoir eu ce groupe de bêta lecteurs pour être sûr de rien avoir oublié, c'était de, bah, effectivement, tu vois, de pas oublier une idée forte qui, en fait, aurait eu de l'importance parce que moi, j'y ai pas pensé dans le. Tu sais, quand t'es dans le projet, il y a plein de choses auxquelles tu penses pas forcément parce que tu manques de recul, notamment sur des premiers jets. Et ça, c'était une grande peur parce que sur un livre, tu vois, sur un article ou sur un podcast, bon, tu peux changer les titres, tu peux faire un update, tu peux faire une mise à jour d'un article. Sur un livre, si tu veux, une fois qu'il est, il est validé, imprimé, à moins que tu fasses une seconde version, une seconde édition, et encore, bah, si tu veux, c'est là tu peux plus le corriger, quoi. Si j'ai dit des bêtises, je te dirais que c'est presque trop tard aujourd'hui.
Et du coup, comme tu disais que Erol était venu te chercher, comment t'as vécu ce travail éditorial-là, les coupes, les rajouts, bah, les exigences de part et d'autre, d'ailleurs, vu qu'on en avait déjà parlé, notamment sur les schémas, par exemple.
Effectivement, écoute, franchement, j'étais assez libre sur tout le processus d'écriture. C'est-à-dire que, alors, j'avais des jalons, j'avais des points d'étape qu'il fallait valider, notamment sur des premiers chapitres, sur la fin d'un premier jet, d'un second jet, etc. Mais si tu veux, ils m'ont assez peu mis la pression sur des dates de rendu, etc. J'étais assez autonome et c'était une de mes volontés. Pour être honnête, moi, je les attendais plutôt sur la forme plutôt que sur le fond, parce que sur le fond, en plus avec ce groupe-là, ouais, je savais que, en tout cas, j'aurais moins pris en considération leur retour sur le fond, sur telle et telle méthode, parce que forcément, c'est un sujet qu'ils connaissent moins. En revanche, je les attendais beaucoup sur tout ce qui ne touche pas à l'écriture directement, c'est-à-dire la conception de la couverture, les idées qu'ils pouvaient avoir, toutes les mises en page, parce qu'il y a quand même une mise en page qui est spécifique, qui est travaillée avec différentes grilles de lecture sur chacun des chapitres, et aussi beaucoup de schémas. Là aussi, tu vois, quand je te parlais de positionnement tout à l'heure, de comment est-ce que je voulais positionner le livre, beaucoup de livres business sont, en fait, c'est un enchaînement de textes, et il y a assez peu de, tu vois, de moments où tu peux un peu souffler, où tu peux revenir sur une idée forte, et je voulais inclure un maximum de schémas, de méthodes, de concepts que j'avais imaginés. Et pour ça, par contre, tu vois, j'ai été exigeant sur le fait que je voulais que ce soit des schémas qui étaient retravaillés par un graphiste pour qu'il y ait une vraie qualité derrière, et que ça soit pas juste, tu vois, des choses bricolées ou faites sur PowerPoint. Et donc là-dessus, ouais, un peu plus d'exigence, mais si tu veux, le gros de leur travail, il s'est fait sur les 3-4 derniers mois, en fait. À partir du moment où on a fait pas mal de tests sur les couvertures, où moi, je leur ai donné des inspirations, des angles que je voulais tester. Et puis après, eux, l'avantage, c'est qu'ils avaient un studio, par exemple, en interne de graphisme, donc pas mal de réactivité là-dessus. Et puis, il y a eu beaucoup de relecteurs, c'est-à-dire que moi, avant de leur envoyer la première version du livre, je crois qu'on était à la quatrième version.
Entre nous
et avec tous les relecteurs, etc. Et eux, tu vois, le livre a dû passer entre 3-4 relecteurs déjà différents, en plus de mes dernières relectures. Donc le livre a été quand même revu pas mal de fois, et je les attendais là-dessus, tu vois. En fait, on se rend pas compte, mais tout ce qui est mise en forme d'un livre, coquille, faute d'orthographe, etc., j'étais bien content de pouvoir aussi décharger ça et de plus avoir un regard de validation. Parce que si tu veux, une fois que tu as écrit le livre, que tu l'as relu, tu peux déjà plus trop encadrer ton livre, pour être honnête. T'es content de pouvoir anticiper ce qui arrive après, c'est-à-dire la promotion, le marketing, et te dire, bah, pendant que je bosse là-dessus, je sais que Erol est en train de travailler sur le produit fini, en fait. Et ça, c'est quand même chouette de pas avoir eu de contraintes, tu vois, sur les couvertures. Je voulais une couverture spécifique à la fois sur les couleurs. Je voulais des couleurs Pantone un peu vives. Je voulais aussi une sorte de, alors c'est pas vraiment un vrai gaufrage, mais il y a un petit peu de relief sur la couverture avec un peu de brillance, etc. Et en fait, ils ont été assez ouverts à tout un peu et très sympa sur toutes les exigences que je pouvais avoir sur ce premier livre-là. Donc, si tu veux, ça a jamais vraiment bloqué. En tout cas sur la partie vraiment production du livre, ça a vraiment jamais bloqué quoi.
Ok. Et si t'avais un conseil du coup à donner, c'est toujours la dernière question que je pose dans le podcast, si t'avais un conseil à donner au Alexis d'il y a, bah allez, toi je vais pas dire 10 ans parce que c'est peut-être beaucoup, mais il y a 5 ans celui qui commence, ce serait quoi? Est-ce que tu referais tout pareil et quel conseil tu pourrais lui donner aujourd'hui avec l'expérience que t'as?
Tu vois, il y a 3 ans, je t'aurais dit « Ouais, j'ai perdu du temps, j'aurais pas dû faire une école de commerce. En fait, si j'avais eu ces idées-là plus tôt, en fait, j'aurais gagné du temps. » Aujourd'hui, avec un petit peu, tu vois, 3 ans de recul de plus, je me dis que le résultat de ce que je suis aujourd'hui, des projets que je suis en train de construire, en fait, tout ce que j'ai pu faire avant, à d'une manière ou d'une autre, nourrit les idées, mon approche, ma manière d'être, de faire d'un point de vue professionnel et personnel. Donc franchement, pour l'instant, j'ai pas de regrets, tu vois, même si parfois j'avais de la frustration d'être en école, même si quand j'étais à la Défense dans mes stages, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je comprends aujourd'hui que j'aurais pas eu le même regard sur le monde de l'entreprise, sur la manière de travailler avec mes clients, si j'avais pas eu toutes les expériences parfois malheureuses que j'ai pu avoir dans ma vie. Donc je ferais pas de choses différemment. Je me dirais plutôt, tu vois, fais confiance aussi à la trajectoire que tu es en train de donner, et que si tu veux, parfois on a envie de changer de route très très vite, on se pose des questions très très tôt, et en fait on oublie quand même que notre vie professionnelle, elle va se passer sur 40-50 ans, tu vois. Ouais. Qu'en fait on a le temps d'explorer, on a le temps de se tromper, on a le temps d'avancer, de parfois reculer un petit peu. Je veux dire, il se passe tellement de choses. Là on est dans un condensé où moi c'est vrai que sur les 4-5 dernières années il s'est passé énormément de choses. J'aurais été incapable de savoir aussi, tu vois, tout ce qui aurait pu se passer. Il y a 5 ans j'étais étudiant en costume cravate, enfin encore une fois
maintenant jamais. Tu fais des super rentrées Instagram en basket.
Exactement. Maintenant, voilà, je suis en chaussette chez moi, et je facture mes clients et je fais des stories Instagram. Donc, effectivement, si tu veux, tu vois, on est sur un virage à 180 degrés que j'aurais jamais pu prévoir. Et même si tu m'aurais dit qu'on discuterait ensemble un mardi après-midi et que j'aurais sorti un livre, jamais je t'aurais cru. Je t'aurais dit, mais t'es bien gentil, mais c'est dans 4-5 ans, il va me falloir un peu plus de temps. Donc ouais, moi, je leur ai dit, fais-toi confiance. Et prends le temps, en fait. Prends le temps de tester, prends le temps de te tromper aussi. C'est OK, ça fait partie de ton aventure, effectivement.
Ouais. Bon, alors, du coup, au moment où sort ce podcast, on sera le 20, donc du coup, le livre sera sorti officiellement. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire sur ce livre, à ceux qui vont nous écouter?
Eh bien, donnez-lui une chance, même si vous ne lisez pas de livre business. Je suis sûr que je serais très curieux de voir justement des lecteurs et lectrices et auteurs autrices qui sont plutôt dans des sujets plus romans et moins business. Je serais très curieux d'avoir des retours sur ce livre-là, même sur la structure, etc. Donc vous pouvez acheter le livre, il y a plein de bonus en plus avec ce livre-là.
Tu auras déjà mon retour vu que j'ai prévu de le lire. Voilà, maintenant j'ai une obligation de résultat, donc je vais pouvoir faire un retour dans tous les cas. Bon, merci beaucoup en tout cas. J'ai conscience qu'il y avait beaucoup de questions et qu'elles n'étaient pas toutes faciles, mais merci beaucoup d'avoir répondu en toute honnêteté, ça se voit.
Merci beaucoup Camille, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce processus-là.
Et puis vous pouvez suivre Alexis sur Instagram, maintenant c'est Tribu Indé.
Yes, effectivement.
Et le livre, où est-ce qu'on peut le retrouver? Sur Amazon, et un peu partout maintenant, non?
Ouais, sur Amazon, Fnac, Cultura, et puis normalement dans toutes les bonnes librairies. Maintenant, je peux le dire.
Il se trouve effectivement
dans les bonnes librairies. Et puis sinon, toutes les infos sont sur tribuindé.com/livre. Il y a un petit peu plus de détails sur le sommaire du livre, sur la thèse, sur ce qu'on peut y retrouver. Donc c'est le meilleur moyen.
Je vais mettre ça dans la description, comme d'habitude, pour te retrouver, et puis sur le livre, etc. Je mettrai les liens. Bon, merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup à toi, Camille.
C'est ainsi que s'achève mon échange avec Alexis Minkela. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses aussi, que ça vous a intéressé dans tous les cas, que vous soyez sensible à l'écosystème indépendant ou non. En 2021, j'ai envie d'ouvrir le podcast et même mes autres contenus à d'autres types de créateurs comme Alexis qui nous sortent un peu de la bulle de la fiction. Écrire sans rature, à la base, c'est surtout un podcast qui met en lumière les processus créatifs de chacun qui sont très divers et variés. N'hésitez pas à me faire un retour en laissant un petit commentaire sur la page du podcast dans votre plateforme d'écoute, si elle le permet, et ou sur Instagram, bien sûr, où je suis toujours hyper contente de vous lire chaque semaine. Tous les liens concernant Alexis et son livre, bien sûr, sont dans la description de l'épisode, ainsi que ceux pour me retrouver moi-même en ligne. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Écrire sans rature, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos projets.